Ça va bien?
Bien, ce matin, nous allons lire dans le Cantique des Cantiques au chapitre 3. Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 6 à 10. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands? Voici la litière de Salomon, autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre. Au milieu est une broderie d'œuvres d'amour des filles de Jérusalem. Amen. Alors, c'est un personnage féminin. Et ce personnage féminin monte du désert. C'est une jeune fille. Une jeune fille qui monte du désert. Dans le désert, on est errant. Moi, je me suis baladé dans des déserts. C'est ce qu'est la promise du Seigneur. De nos jours, elle erre au milieu de la confusion et de la solitude. La jeune fille, c'est celle qui va à la rencontre de son époux. C'est elle qui a entendu la voix qui crie, comme nous dit 1 Thessaloniciens 4, l'Évangile nous dit, l'époux vient aller à sa rencontre. Alors elle est dans le désert, elle erre dans la solitude du désert, dans la solitude qu'on trouve dans l'église, où c'est chacun pour soi, où on fait comme on veut. Remarquez, on peut aussi vivre en solitude dans la communauté si on veut, hein, on n'est pas obligé, mais on peut. Elle monte du désert. Elle monte pour aller se reposer près du Seigneur. Le désert, pour un juif qui habite Israël, c'est toujours le sud. Et le pays de la promesse, Canaan, c'est toujours le nord. C'est pourquoi elle monte. Elle monte vers le nord. C'est pourquoi il est écrit « elle monte ». Monter signifie « venir d'Égypte ». Quitter l'Égypte, sortir du désert, sortir, l'Apocalypse nous dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de l'Église, des nations, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ces mauvaises œuvres. Quelles œuvres? Des œuvres de Nicolaïte. Et cette jeune fille, elle monte progressivement. On a un petit chant qui dit, je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Vous connaissez? Ben voilà, elle monte, et c'est progressivement, c'est pas à pas, c'est pas instantanément qu'on sort comme ça du désert, pouf pouf, non. Elle sort du désert, elle sort de l'Égypte, elle sort de ses églises dénominationnelles, elle monte graduellement, elle renonce progressivement à sa vie d'errance. Elle renonce progressivement à toutes les influences mondaines, elle renonce progressivement à toutes les fausses croyances religieuses, à sa vie de solitude dans le désert. Elle monte du désert, afin d'obtenir de Dieu ce que Dieu a promis à ceux qui vaincraient, à celui qui vaincra, voici je donnerai. Amen. Ouais. Son voyage à travers le désert, il a commencé dans la maison de sa mère, c'est ce qu'on trouve au verset 4. Les catholiques appellent leur Église, notre Sainte Mère l'Église. Ils n'ont pas tout à fait tort. L'Église, c'est elle qui nous a enfantés. Moi, je suis né de nouveau dans l'Église. Et nous sommes donc nés de nouveau dans un désert. C'est comme ça que l'appelle le Cantique des Cantiques. C'est Dieu qui, dans son amour, a permis que nous puissions passer par cette expérience, que nous puissions vivre dans ce désert, dans le désert des Églises. Mais maintenant, nous sommes en marche. Nous sommes sortis de ça. La jeune fille, elle monte du désert vers le pays de son époux. Elle monte, elle progresse, graduelle, pas à pas, sur les trois chemins. Elle monte, elle va à la rencontre de son époux. Elle sait que le repas des noces est presque prêt. Et l'époux vient à sa rencontre, à la rencontre de sa promise. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens 4, que je vous citais tout à l'heure. Il nous dit que la rencontre se fera entre terre et ciel, entre ciel et terre, sur les nuées. Et le ciel et la terre passeront, nous dit Jésus. Le ciel et la terre passeront, et pour nous, ça passera à ce moment-là. Bien sûr qu'un jour ça passera, ça sera définitif, ça sera terminé, mais pour nous, ça passera là. Le ciel et la terre passeront pour nous. Ils ne continueront pas d'exister comme des états séparés. Nous, de la terre, nous allons être unis au céleste, et c'est là que le ciel et la terre passeront pour nous. Pour nous, pour la jeune fille, pour la fiancée de Jésus, la terre et le ciel passeront lors de la rencontre. À quoi ressemble cette jeune fille? À quoi ressemble-t-elle aujourd'hui, en avril 2006? À quoi? Elle est comme des colonnes de fumée, nous dit le Cantique des Cantiques, comme des colonnes de fumée. Une colonne de fumée qui monte. Elle monte de là où il y a le feu, la fumée. Ça monte de là où il y a le feu. En 1906, Jésus a répondu de son esprit à Los Angeles, aux USA, rue Azusa précisément. Son esprit, comme la pluie de l'arrière-saison, il l'a répandu à nouveau. Il a répandu de son esprit comme lors de la Pentecôte à Jérusalem. Et c'était un feu. Et c'était une pluie de feu. Joël 2 avait annoncé ça. Il y aurait la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, c'est ce qui est tombé à Jérusalem, cette pluie de feu. Et puis ensuite, à Azusa, là, en 1906, la pluie de l'arrière-saison. C'était il y a 100 ans. Cette année, à Los Angeles, il va y avoir une grande fête. Beaucoup de pas tous les pentecôtistes, ce n'est pas possible, mais beaucoup de pentecôtistes vont y aller. Parce qu'il y a 100 ans, le christianisme, l'Église a changé. Changé de visage, vraiment. En 100 ans, le pentecôtisme, c'est-à-dire tout ce groupe de chrétiens qui a été au bénéfice de ce baptême dans le Saint-Esprit qui a commencé là, rue Azusa, en 1906, c'était dans une église de noirs. Eh bien, les pentecôtistes ont répandu le feu sur toute la terre. Et nous faisons partie de ce peuple qui compte aujourd'hui, tenez-vous bien, 500 millions de membres. 500 millions de pentecôtistes, 500 millions de personnes qui parlent en langue, qui croient que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise du Saint-Esprit, que Jésus revient, qui prie pour les malades, qui voit des miracles, qui prophétise, qui interprète les paroles en langue, qui manifeste les 9 dons spirituels de Corinthiens. En nombre, frères et sœurs, les pentecôtistes, nous dépassons les protestants, luthériens, réformés, presbytériens et anglicans cumulés. Nous dépassons tout ça, 500 millions. Quand je me suis converti, il y a à peu près 40 ans, ça fera 40 ans en 2008, quand je me suis converti, nous représentions seulement 6% du christianisme. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, nous représentons 37% des évangéliques. 37%. Mais il est prévu, des gens qui ont fait des calculs, vous savez, probabilité d'après l'accroissement des choses, eh bien, ils ont fait un calcul en 2025, si Jésus n'est pas revenu, eh bien, nous atteindrons 1 milliard 140 millions en nombre. 1 milliard 140 millions pentecôtistes. Nés de nouveau, parlant en langue, remplis de l'esprit. Et l'épouse, la promise, la jeune fille, elle sort de là. Elle sort de là, de ce feu. Elle est comme des colonnes de fumée. C'est ce que le Cantique des Cantiques nous dit. Aujourd'hui en Afrique, le pentecôtisme représente, écoutez bien, 15% de la population. C'est-à-dire, vous prenez 100 personnes, ben, il y en a 15 qui sont pentecôtistes. On ne parle même pas des catholiques, on ne parle pas des protestants, on ne parle pas des baptistes et machin. 15, vous prenez 15 personnes sur 100 et pentecôtistes en Afrique. En Afrique, 35 personnes sur 100 sur 100 chrétiens. Si vous prenez 100 chrétiens, sur les 100 chrétiens, il y a 35 pentecôtistes. En Afrique. En Asie, les pentecôtistes, nous sommes 45% de chrétiens nés de nouveau. 45% parmi les chrétiens, hein, nés de nouveau. C'est-à-dire que la moitié des chrétiens sont des pentecôtistes, on peut dire. En Amérique du Nord, Les pentecôtistes représentent, écoutez bien, 25% de la population, pas de la population chrétienne, de la population. Vous prenez une personne sur quatre, c'est un pentecôtiste. Par contre, en Europe, nous représentons seulement 5% de la population. C'est le plus minable, plus minable. Le feu en s'entend, et la jeune fille, elle sort de là. Elle sort de ce que Dieu appelle un désert de feu peut-être, mais c'est un désert quand même, un désert qui a reçu le feu du Saint-Esprit. La Bible dit, je répondrai à la fin des temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair, c'est un désert. Mais il y a quand même le feu, il y a quand même la puissance du Saint-Esprit là. Et c'est un désert de feu, mais les gens errent là dans ce désert, de doctrine en doctrine, de scandale en scandale. Savez-vous que de ce réveil pentecôtiste est né 11 000 dénominations différentes? 11 000. On n'est pas dedans. 11 000. Pensez-y. Or, la jeune fille, elle est comme des colonnes de fumée. Vous voyez ? Il y en a beaucoup. La fumée, comme je vous le disais, elle sort du feu. Alors, on va regarder un peu les expressions et voir le symbole. La fumée. La fumée, c'est quelque chose qui se dissipe. C'est vrai. Mais là, ce sont des colonnes de fumée. Ce qui signifie que c'est quelque chose, un élément qui sort du feu, sortez du milieu d'elle, il faut sortir, mais ce sont des colonnes, c'est-à-dire que c'est inébranlable. Alléluia ! Nous sommes des pentecôtistes. Elle vient du désert, des églises en feu. Du désert, c'est vrai, mais elle est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Elle est une colonne solide et stable qui monte pour être une colonne dans le temple de Dieu. Apocalypse 3:12. Et puis, cette jeune fille, elle est parfumée. C'est ce qu'on vient de lire. Elle est parfumée, elle sent bon. Frères et sœurs, réfléchissons. Elle sent bon pourquoi ? Avant de sentir bon, il faut s'imbiber de parfum. On ne sent pas bon parce qu'on a simplement du parfum dans la salle de bain. Il faut s'en imbiber. Ça signifie que la jeune fille, la vierge sage, s'est imprégnée de Jésus-Christ. Et maintenant, elle répand son parfum. Elle répand le divin parfum de son divin parfumeur. Vous comprenez, frères et sœurs ? Et quel parfum y a-t-il ? Eh bien, il y a la myrrhe. Et la myrrhe, c'est ce qu'on voit là, parle de la souffrance. La myrrhe parle de la mort de Jésus. Pourquoi est-ce que la jeune fille sent la mort ? Pourquoi est-ce qu'elle sent la myrrhe, parfum de mort ? Eh bien, c'est parce qu'elle s'est parfumée de myrrhe, ce qui signifie qu'elle a fait personnellement l'expérience de la croix. Ce n'est pas seulement Jésus qui est mort à la croix. Elle a fait la petite épouse de Jésus-Christ, la petite jeune fille qui monte du désert, elle a fait l'expérience de la communion de ses souffrances en devenant conforme à Jésus dans sa mort. Philippiens 3:10, c'est-à-dire, elle est réellement morte à elle-même. Et puis, elle sent l'encens. L'encens symbolise la résurrection. Maintenant, ça symbolise l'Église catholique, mais c'est parce qu'ils ont récupéré le truc. Mais c'est la réalité, l'encens symbolise la résurrection. L'encens évoque aussi la vie de prière. Et l'encens évoque aussi les forces, les vertus de Jésus-Christ, que Dieu considère comme très parfumées. Alors Jésus a vécu et il est mort. Tandis que nous, nous mourons d'abord en lui, la myrrhe, et nous vivons ensuite avec lui l'encens. Vous voyez, l'ordre des choses établi dans la parole de Dieu, elle sent la myrrhe et l'encens. C'est-à-dire qu'elle sent la mort d'abord avant de sentir la vie. Parce que nous sommes venus dans ce monde et nous avons dû mourir à nous-mêmes pour ressusciter. Jésus, il est venu dans ce monde vivre et puis ensuite il est mort. Et nous, c'est le contraire. Nous mourons d'abord. Pour nous, la myrrhe vient avant l'encens. Pas de vie de prière avant d'être mort à soi-même. Pas de force, pas de vertu avant d'être mort à soi-même. Sinon, ça vous donne des chrétiens charnels. Ça vous donne des chrétiens, comme on en a vu il n'y a encore pas tellement longtemps, qui font les lois, qui obéissent à toutes les lois, qui font tous les machins. Alors, ils ont l'air tellement plus sains que nous, c'est vrai. Ils ont l'air hyper sains. Ils regardent pas la télé, ils boivent pas de vin, ils sont formidables. Mais c'est la loi. La loi, c'est très rigide. Il n'y a pas la vie. Ça glorifie leur chair. Nous aussi, si on veut, hein, on peut très bien observer le sabbat, faire tous ces machins-là, puis alors on aura l'air tellement plus spirituel aux yeux des autres, et ça nous donne une satisfaction. Vous voyez, on est mieux que vous. Non, c'est pas ça. mort à soi-même, renoncement à soi-même, et ensuite c'est l'œuvre de Dieu, nous ressuscitons en lui. Dans les textes anciens, on lit que c'est pas seulement comme c'est écrit là dans Second, et de toutes les aromates des marchands, dans les textes anciens, on lit de toutes les poudres du parfumeur. Et le mot parfumeur, c'est au singulier, là c'est les marchands. Dans les textes anciens, les réels, si vous prenez Online Bible, par exemple, vous verrez, c'est au singulier, c'est le parfumeur. Et le parfumeur, eh bien c'est Jésus. C'est de lui que nous avons acheté ce qui nous manquait. Apocalypse 3, 18, achète de moi, vous vous rappelez? Achète de moi, je te conseille d'acheter de moi. Et c'est vers lui, par exemple, que les vierges sages envoie les vierges folles. Quand les vierges sages disent, nous n'avons pas assez d'huile, partagez avec nous. Et les vierges sages leur disent, non, allez plutôt en acheter. Et puis, mais c'est trop tard. Elles vont en acheter, mais quand elles reviennent, la porte est fermée. Jésus est déjà venu, il est parti avec son épouse. Il est le parfumeur, c'est-à-dire il est le marchand. Comme dit Second, le marchand, un parfumeur, il vend son parfum. Et en tant que marchand, il ne donne rien gratuitement. Pourtant, Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oui, mais bien sûr, il nous a donné gratuitement, mais ça nous a quand même coûté quelque chose. Pas de l'argent. Ce que Jésus veut dire par là, c'est que nous n'avons pas à faire payer ce que nous donnons de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne vous avons pas payé les prières, nous ne vous avons pas payé les miracles, nous ne vous avons pas payé le salut, nous ne vous avons pas payé... C'est gratuitement, mais ça nous a coûté quand même quelque chose. Ça lui a coûté quelque chose et ça nous coûte quelque chose. Tout doit s'acheter. Le royaume de Dieu, la Bible nous dit, Matthieu 13, 45, 46, est semblable à un marchand qui achète. Et on peut lire dans, un peu plus loin, dans le Cantique des Cantiques, au verset 7 et 10, on a déjà lu ça tout à l'heure, au sujet de ce que cela a coûté, mais de ce que cela apporte comme valeur. Là, on lit au verset 7, verset 10, une litière. Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Verset 6, c'est une question qui concerne la jeune fille. Qui est-elle? Et la réponse se trouve au verset 7, elle concerne le roi. Dire c'est très embrouillé toute cette histoire. Pas tant que ça, c'est simplement la façon orientale d'aborder les choses. Il suffit simplement d'être humble et puis de dire, bon, on va commencer à penser comme eux, pour voir comme eux, pour comprendre comme eux. La litière, ça nous est dit là, c'est celle de Salomon. Qu'est-ce que c'est une litière? C'est un endroit où on passe la nuit, où on se repose, où on dort, lorsque règnent les ténèbres. La litière évoque le repos du roi. Jésus a combattu et son repos actuel, il est sans danger. Il peut se reposer, c'est sans danger. Parce qu'il contrôle toute situation. Il y a 60 hommes vaillants qui ont la puissance du roi, là. Elles sont même la puissance du roi. Maintenant, à l'heure actuelle, même en dormant, Jésus est vainqueur. Il est sur son lit. Cela signifie qu'il est plus que vainqueur. Une totale confiance dans ce qui a été établi. Et puis, il y a une union. Il y a une union entre la jeune fille du verset 6 et le roi du verset 7. Tout ce qui est au roi, c'est à la jeune fille. L'épouse de Jésus, même au milieu des ténèbres actuelles, elle est pleinement victorieuse. Nous jouissons de la victoire que Jésus-Christ a remportée sur Satan. Et les cohortes d'anges sont prêtes à se battre pour souligner cette victoire qui a déjà été emportée. Les 60 anges sont là avec l'épée. L'épée, ça représente la parole de Dieu. Les anges existent, frères et sœurs. Et il y en a même ici. Il y en a ici. Je me souviens souvent, c'est arrivé, mais en particulier dans l'église du frère Honoré, que vous connaissez tous, au Burkina, alors que je prêchais et que Nicolas m'interprétait, plusieurs personnes dans l'auditoire ont vu des anges derrière nous. Et ils sont là aujourd'hui même. Les anges existent. Pour souligner la victoire de Jésus-Christ qui est la nôtre, par notre foi en action. Je voudrais vous lire quelque chose dans Enoch, au 2 Enoch, chapitre 19. Voilà ce qui est écrit. « Et les hommes m'emmenèrent et me firent monter de là au sixième ciel. Et là, je vis un groupe de sept anges, très brillants et glorieux, et leur visage resplendit comme un rayon de soleil, Et il n'y a pas de différence entre le visage ou les dimensions du corps ou de changement dans le vêtement. Ce sont eux qui règlent et enseignent le bon ordre du monde, la marche des étoiles, du soleil et de la lune, et à leur guide les anges et les anges des cieux, et ils mettent l'accord dans toute la vie des cieux. Ils règlent également les commandements, les instructions et la douce voix des chants et toute louange de gloire. Et il y a les anges qui sont sur les saisons et les années, et les anges qui sont sur les rivières et sur les mers, et les anges qui sont sur les fruits et l'herbe, et sur tout ce qui foisonne, et les anges de tous les peuples. Et ce sont eux qui règlent toute la vie et l'écrivent devant la face du Seigneur. Et au milieu d'eux, il y a sept phénix, et sept chérubins, et sept séraphins à six ailes, leur voix et leur chant à l'unisson les uns des autres. Leur chant est indescriptible, et le Seigneur se réjouit à ses marchepieds. Des phénix. Des anges, des chérubins, des séraphins et des phénix. Est-ce que c'est le seul passage? Non. Il y a aussi dans 3 Baruch 6-10, où il nous est longuement fait mention du travail des phénix. C'est intéressant. C'est intéressant. Ne sous-estimez pas l'influence des anges dans votre vie. Ils sont bien réels. Maintenant, il y a le verset 9. Dans Louis II, il reprend le mot litière. Vous voyez, il y a deux fois le mot litière. Mais dans le texte ancien et dans la version Darby, ils ne disent pas litière comme au verset 6, mais ils disent palanquin. Vous savez ce que c'est qu'un palanquin? Il y a Simone qui dit oui. Un palanquin, le dictionnaire nous dit, c'est une chaise ou une litière. C'est pourquoi, second, il a mis litière. Il dit, bon, la première fois c'est litière, la deuxième fois je mets litière aussi. Non. C'est une chaise qui est portée à main d'homme. Étant donné qu'au verset 6, c'est une litière, et qu'au verset 9, c'est un palanquin, je pense que le verset 6 parle de lit, et je pense que le verset 9 parle de chaise. Sinon, ça serait le même mot qui serait employé dans les textes anciens. Et je pense qu'il faut que notre attention soit tirée par des détails comme ça. En tout cas, moi, ça m'attire l'attention. Pourquoi? Parce que la litière évoque le repos, et le palanquin évoque une action, mais une action qui est portée. La litière évoque la nuit, et le palanquin évoque la journée. On s'assied sur une chaise le jour, et puis pour voyager, pour aller. Et puis la litière, c'est la nuit. De sa litière, Salomon affronte, le roi affronte, Jésus affronte ses ennemis, non pas lui-même, mais ce sont les anges vaillants qui sont autour, avec les phénix. Et de son palanquin, eh bien, il regarde l'ami qui vient. Il regarde la jeune fille qui vient. Ce n'est plus la bagarre, là. Il regarde. Et il va à sa rencontre. Il est porté dans les nuées du ciel. Il est porté. Le palanquin est porté comme l'arche de l'Alliance était portée. Rappelez qu'il n'y avait pas le droit de faire... on n'avait pas le droit de mettre l'arche de l'Alliance sur un char tiré par des bœufs. Il fallait que ça soit porté par des hommes. Et là, c'est des anges. Jésus, assis, est porté par ceux qui lui appartiennent. Et les matériaux ont tous une symbolique, selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire selon ce qui est écrit. Par exemple, il nous est dit que le bois de ce palanquin, c'est donc du bois, il est en bois, et c'est du cèdre. Le bois, c'est la croix. Le cèdre, c'est l'arbre noble, c'est-à-dire l'homme noble. Rappelez-vous, dans le jardin, il y avait deux arbres. Les gens pensent que c'était des pommiers. Non, non, un des arbres était Jésus, l'autre était Satan. Un jour, Jean-Baptiste a dit, la cognée est mise aux arbres, c'est-à-dire aux hommes. Ce qui n'est pas noble ne peut pas être utilisé par Jésus, et la cognée est mise, chlac, c'est déjà, ils sont déjà condamnés. C'est déjà préparé, c'est déjà fait. Et Jésus, lui, il a tout fait pour notre noblesse sur le bois de la croix. Un autre endroit, il guérit un homme aveugle et l'homme dit « Je vois les hommes qui marchent, mais je les vois comme des arbres. » Des arbres. Rappelez-vous que la symbolique de l'arbre, c'est toujours l'homme. Les colonnes du palanquin, il nous est dit là qu'elles sont d'argent. L'argent, n'a pas la même valeur que l'or, c'est en dessous. Jésus, c'est l'or. Il est la parole de Dieu, l'or, éprouvé cette fois. Mais les colonnes du palanquin sur lesquelles il est assis sont d'argent. Et l'argent signifie que l'œuvre de Jésus est d'une immense valeur, l'œuvre sur laquelle il est assis, mais que la valeur de sa personne est plus grande encore que la valeur de ce qu'il a fait. Et frères et sœurs, il en est de même pour nous. Nous ne sommes pas quelque chose parce que nous faisons quelque chose. Notre valeur est plus grande que ce que nous faisons. Je vous l'ai toujours enseigné. Pourtant, ce que Jésus a fait est grand. Aujourd'hui, il est assis, il se repose sur les colonnes de valeur inébranlable de son œuvre, sur ce qu'il a fait. Il est assis dessus parce que c'est accompli. Plus on ne revient plus là-dessus. Ensuite, le dossier du palanquin est en or. Qu'est-ce que ça signifie? L'or, c'est Jésus, je vous ai dit. Jésus s'adosse à sa parole. C'est-à-dire, il l'a dite, il l'a vécue et il l'a accomplie. Pour nous, lui-même, il s'adosse. En quelque sorte, il est confortablement installé. Sa parole a été dite, elle a été vécue, elle a été accomplie. Le siège, nous est-il dit, sur lequel il est assis, est de pourpre, recouvert de pourpre. Parce qu'il est roi, parce qu'il est régnant. Cela nous montre que le gouvernement entier, Jésus est assis là. Désolé, il n'y a pas de place pour d'éventuels autres régnants. C'est-à-dire que si tu crois que tu peux changer quelque chose par ta propre volonté, eh bien tu te trompes. Jésus seul règne sur tout. Personne n'y ajoute, personne n'y retranche quoi que ce soit. C'est ce que Jésus veut qui se fait. C'est le grand pouvoir de celui en qui nous avons la foi. Étant donné que nous avons la foi, nous pouvons exercer ce pouvoir en son nom. Comprenne qui pourra. Moi, je préfère croire ça plutôt que de croire qu'on est là, des espèces de petits rois en train de pouvoir faire ce qu'on veut et en surprenant Jésus sans arrêt à tous les coins de rue. Ensuite, il nous est dit que son intérieur, l'intérieur de ce siège, est brodé. Dans les versions anciennes, ce n'est pas brodé, mais c'est pavé. Pavé d'amour par les filles de Jérusalem. Pavé, ça veut dire que c'est là qu'on met les pieds. On met les pieds sur les pavés. Tout ce qui était à Jérusalem dans la première église est pavé d'amour, brodé d'amour. Et c'est vers cela que nous tendons. Et c'est vers cela que nous devons continuer à tendre sans nous lasser. Alors la question était, qui est celle qui monte du désert? Et voici la réponse. Le roi Salomon s'est fait une litière et un palanquin. On peut dire, mais c'est du chinois, qu'est-ce que c'est que cet hébreu-là? Qui est celle qui monte du désert? Le roi Salomon s'est fait une litière et un palanquin. Voilà, tel que c'est écrit. Ça veut dire que, un, la position du roi, la position de Jésus face à ses ennemis, il se repose. Il est dans une totale assurance. Les anges soulignent sa gloire. Tout est fait, tout est préparé. Il n'y a pas de problème. Dans les ténèbres, Jésus ne craint rien. Ce qu'il a accompli est parfait. Deux, la position du roi est aussi assise. La position de Jésus est assise en train de regarder sa bien-aimée qui monte, qui vient du désert, qui monte, qui sort du feu du désert pour, comme des colonnes de fumée, des colonnes, quelque chose de solide, de la fumée solide. Le palanquin, les colonnes, le support du palanquin, le siège, l'intérieur, pavé, brodé d'amour, tout ça, ça appartient aux deux, mes frères et sœurs. Salomon appartient à la jeune fille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est à nous. On peut lire 1 Corinthiens 3, 23 ensemble. 1 Corinthiens 3, 23, on peut déjà lire 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. L'épouse est à son époux, l'époux est à son épouse. Tout est à vous, tout. Les choses présentes, les choses à venir, c'est à vous. De quoi auriez-vous peur? Même la mort est à vous. La mort? Ben oui, la mort est à vous. Tout est à vous. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé toutes ces choses-là et il nous les donne, il les partage avec nous. Frères et sœurs, voilà la position de Jésus. Et donc voilà la nôtre dans le repos avec les anges, assis sur toutes ces choses merveilleuses, brodées d'amour. Alors montons, continuons à monter du désert. Continuons notre marche sur le chemin. Lui aussi, il marche, assis sur le palanquin, porté par les anges qui lui appartiennent. Il est en marche, il vient, nous sommes en marche. Il a dit, en marche, les pauvres, en marche, les persécutés, en marche, heureux. Amen. Continuons notre marche sur le chemin, dans la vérité, selon la vie, par amour, avec amour. Montons du désert. Sortons du désert de la solitude. Ne nous retournons pas pour regarder. Oh, mais quand même, dans ces églises dénominationnelles, il y a le feu. Ah, oh, mais quand même, c'est quand même étrange. Ils ont l'air plus réveillés que nous. Ah, oh, c'est quand même étrange. Ils chantent, ils crient, et puis il y a des miracles, et puis ils se roulent par terre. Il y a le feu là-bas dedans. On dirait que chez nous, il n'y a pas tellement le feu. Non, c'est la fumée chez nous. Ce qui sort du feu. Amen! Voilà la réponse, messieurs qui veulent toujours le feu. Nous ne voulons plus le feu, nous sortons du feu. Ce qui sort du feu, c'est de la fumée. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça me fait plaisir de trouver ces choses, pas à vous. Au milieu, nous sortons, nous émanons de ce feu. Comme des belles colonnes de fumée. Au milieu de l'odeur de la mort et de la résurrection de Christ, la Bible dit que pour les uns, nous avons une odeur de mort et pour les autres, nous avons une odeur de vie. Pour certains, nous puons la myrrhe, pour d'autres, nous sentons l'encens. J'espère que pour vous, je sens l'encens. J'aime bien la myrrhe aussi, mais bon. Mieux l'encens quand même. Il y en a qui n'aiment pas l'encens ici aussi. On va faire brûler un petit peu pour les énerver. Ayant tout pleinement reçu en Jésus-Christ, ayant payé tout ce que nous devons aux marchands, nous avons à payer aux marchands. Payer de notre vie, payer de notre égoïsme, payer au divin parfumeur. Rien n'est gratuit. Rappelez-vous cette prédication que j'avais faite, il n'y a pas de repas gratuit. Rien n'est gratuit. Tout est effort, toujours. Si tu penses que ça va te tomber tout cuit dans la bouche, que tu vas sortir de la solitude parce que comme ça, un miracle va t'arriver. Non, c'est à toi de faire l'effort. Tout, c'est toi qui dois faire un effort. Ne compte pas sur les autres. C'est toi qui dois aller. Amen. Tout le monde, chacun d'entre vous. Personne ne m'aime. C'est faux. C'est pas vrai. Tout est effort. Alors efforcez-vous d'ajouter à votre foi ce qu'il faut. Vous trouvez ça dans Pierre. La patience, la vertu, toutes ces choses. Pour être trouvé digne du repas du Seigneur, de cette rencontre merveilleuse qui aura lieu entre ciel et terre. Amen. Merci Jésus pour cette parole. C'est un peu compliqué, c'est un peu différent, mais j'aime bien de temps en temps apporter quelque chose de différent. J'espère, je te prie mon Dieu, que mes frères et sœurs ont compris. Sinon, ils peuvent toujours réécouter. Je te prie que quand ils réécouteront, ils prennent des notes et puis ils comprennent mieux et que cela puisse influencer leur vie, qu'ils puissent se réjouir de savoir pourquoi ils en sont là où ils en sont, sachant que tu tiens toutes choses sous ton contrôle. Merci Seigneur Jésus. Amen.
Tous unis dans un lien d'amour, tous unis dans un lien d'amour, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu, tous unis dans un lien d'amour, tous unis dans la même promesse d'un amour qui grandit sans cesse, que nos voix s'élèvent vers le Dieu éternel, tous unis dans un lien d'amour, tous unis dans un lien. Tous unis dans un lien d'amour, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu, tous unis dans un lien d'amour, tous unis dans la même promesse d'un amour sans cesse, que nos voix s'élèvent vers le Dieu éternel, tous unis dans un lien.